Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée des médias suivants. La presse, Fugue et En route. Au programme, le laboratoire de la forêt boréale. Un important groupe de défense des droits LGBTQ chinois annonce cesser son activité. Et les meilleures destinations pour amateurs de ciel étoilé au monde. Bonne écoute.
Le laboratoire de la forêt boréale, un texte d'Alexandre Vigneault, paru le 27 mai 2023 dans la presse. Baie-Comeau, population 20 800 habitants. Pour développer son économie, la Côte-Nord mise sur ce que la nature qui l'entoure lui offre, le bois, bien sûr, mais aussi des petits fruits, comme la baie d'Argousier, l'érelle, ou la chicotée. Des chercheurs réunis au cégep de Baie-Comeau mènent diverses expériences pour en optimiser l'usage et développer de nouveaux débouchés, notamment de la bière. Ce n'est pas pour garder des boissons au frais que la chercheuse Ève-Catherine Desjardins garde un petit frigo dans son bureau du Centre d'expérimentation et de développement en forêt boréale, CEDFOB, situé au cégep de Baie-Comeau. Il n'est même pas branché. Derrière sa porte, on découvre pourtant plusieurs dizaines de pots d'environ un litre remplis d'un liquide orangé où flottent parfois des fruits à moitié écrasés de la même couleur. Ces sphères informes sont en fait des baies d'argousier, étoile montante des petits fruits de la côte nord. Elles baignent dans un liquide essentiellement composé de jus de pomme. Leur entreposage dans ce frigo, démis de ses fonctions réfrigérantes, fait partie d'un test de fermentation mené par l'équipe du CEDFOB en collaboration avec une entreprise locale, la microbrasserie Saint-Pancras. On est en train de chercher la meilleure technique pour faire fermenter ces fruits-là, nous dit André Morin, copropriétaire de la microbrasserie Saint-Pancras. Ce n'est pas la première fois que l'entreprise collabore avec le centre de recherche. Ces bières tête de cheval, une blanche sûre à l'argousier et à l'érelle, baie cachée, une sûre à la camerise et plusieurs autres, ont aussi été développés main dans la main avec les scientifiques du CEDFOB. On ne sait pas toujours si un produit va sortir de ce qu'on fait là, admet André Morin. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'on est en action pour notre croissance et que, pour ça, il faut avoir des projets dans ses cartons. Avec le CEDFOB, on a accès à toute une équipe qui a des équipements qui permettent d'accélérer la phase de recherche et développement. Diversifier les produits. Mis sur pied en 2004, le CEDFOB a pour mandat de faire de la recherche appliquée dans le but de stimuler la demande pour les produits issus de la forêt boréale qui l'entoure et d'en optimiser l'utilisation. Il mène plusieurs projets avec l'industrie forestière, mais met de plus en plus l'accent sur les petits fruits nordiques qui, avec l'entomologie, sont une spécialité de la chercheuse Ève-Catherine Desjardins. Elle se consacre notamment au développement de régies de production, c'est-à-dire les meilleures pratiques d'agriculture. Spécialiste de la pollinisation et des abeilles nordiques, elle supervise aussi les cultures expérimentales de petits fruits. On fait de la multiplication en laboratoire. On va en chercher des spécimens et on travaille avec les producteurs pour favoriser les plus productifs, les plus résistants, les meilleurs au goût, explique-t-elle. Une fois les cultures montées, vient le maillage avec les entreprises locales. Dans le passé, les producteurs se contentaient de vendre leur production, explique son collègue Serge Thierry Le Kounougou. Étant donné que certains produits peuvent s'oxyder ou se dégrader rapidement, les producteurs et les entreprises de la Côte-Nord mettent de plus en plus l'accent sur la transformation locale, nous indique Serge Thierry Le Kounougou, chercheur au Centre d'expérimentation et de développement en forêt boréale. L'époque où les petits fruits nordiques ne servaient qu'à faire des confitures ou gelées plus ou moins artisanales est révolue. Il y a une grande demande pour les alcools, mais aussi pour les cosmétiques, dit la chercheuse, évoquant des savons, des hydrolats et des crèmes fabriquées avec des sous-produits de l'argousier, par exemple. L'idée est d'exposer les propriétés des petits fruits, parfois méconnus, qui pourraient avoir la même valeur que d'autres produits qui viennent d'ailleurs, ajoute Serge Thierry Le Kounougou, formé en biologie et en chimie. Vous écoutez Le Laboratoire de la forêt boréale, un texte d'Alexandre Vigneault, paru le 27 mai 2023 dans la presse. Un cœur régional. L'impact du CEDFOB sur la Côte-Nord ne peut être sous-estimé, selon André Morin, de la microbrasserie Saint-Pancras. Les projets de maillage avec les cueilleurs et les producteurs de la région partent de là, dit-il. Ce centre de développement et de transfert technologique constitue par ailleurs une priorité régionale aux yeux de Québec, qui a investi plus de 8 des 9 millions nécessaires à la construction d'un nouveau pavillon du Cégep de Baie-Comeau, qui abritera bientôt le CEDFOB. Le nouvel édifice, toujours en construction au moment du passage de la presse au mois d'avril, est d'une superficie de 15 000 pieds carrés distribuée sur 3 niveaux. Il regroupera les 4 laboratoires actuellement dispersés sur 3 sites, dont l'un est situé à Pointe-aux-Outardes, à une 30 kilomètres à l'ouest de Baie-Comeau. Il abritera aussi un centre d'interprétation et de sensibilisation sur la forêt boréale. En 10 ans, Ève-Catherine Desjardins a vu la situation changer. Les récoltes de petits fruits augmentent et les marchés se développent. Les relles, on ne fournit pas. La chicoutée commence à être très populaire aussi, remarque-t-elle. Investir entre 5 000 $ et 20 000 $ dans un projet de recherche vaut le coup, selon André Morin. Ce sont des sommes raisonnables, dans la mesure où on pense qu'il y a un débouché, analyse-t-il, tout en soulignant que la valorisation des produits nord-côtiers fait partie de la signature de la microbrasserie Saint-Pancras. De la forêt au compost. Le volet « matière ligneuse » n'est pas en reste, signale toutefois Serge Thierry Le Kounougou, spécialiste de la biochimie du bois. Le CEDFOB mène, notamment, avec l'industrie forestière et le ministère des Ressources naturelles et des forêts, un projet visant l'amélioration de la qualité du bois, grandement affecté par la tordeuse du bourgeon de l'épinette. L'idée était de développer des méthodes pour identifier les essences et les secteurs où les arbres sont moins dégradés et d'établir des critères de défoliation, explique-t-il. Avant, on le faisait directement sur le terrain. Maintenant, on utilise aussi des drones qui permettent de voir les secteurs plus ou moins défoliés pour guider les entreprises et leur dire où elles peuvent aller récolter. Les chercheurs du volet matière ligneuse travaillent aussi avec des entreprises de la région pour valoriser les résidus de l'industrie forestière et le recyclage de bois de construction. Le CEDFOB aide par exemple une entreprise qui fabrique notamment du compost à partir d'écorces de bois à améliorer sa recette. Ce n'est pas un détail, car la mise en place d'une économie circulaire axée sur la réutilisation de résidus forestiers, de déchets de petits fruits ou d'autres activités industrielles, comme le brassage de bière, se trouve aussi au cœur de la mission du centre de recherche. Les huiles d'argousier et de chicouté, par exemple, sont d'ailleurs issues du pressage de leurs fruits. Les drèches de la microbrasserie Saint-Pancras, elles, sont notamment réutilisées par un producteur de champignons et un éleveur de cerfs. Participer à une économie circulaire et de partage, c'est une valeur essentielle pour nous, dit André Morin. On le fait avec notre bière, mais on pense aussi qu'une région rayonne à travers son identité entrepreneuriale forte et ses partenariats. Qu'est-ce que le CEDFOB? Le Centre d'expérimentation et de développement en forêt boréale, affilié au Cégep de Baie-Comeau, est un organisme sans but lucratif qui travaille en partenariat avec des entreprises de la Côte-Nord à l'amélioration de leurs pratiques et au développement de nouveaux produits. Il a été fondé en 2004 et s'est d'abord consacré aux produits forestiers. Il s'intéresse de plus en plus à la valorisation des petits fruits nordiques comme l'airelle, l'argousier et la chicoutée. Il valorise aussi le recyclage de déchets et résidus agro-industriels dans un esprit d'économie circulaire. Le CEDFOB est aussi un centre collégial de transfert de technologies, faisant partie d'un réseau pan-québécois qui en compte près de 60. C'était le Laboratoire de la forêt boréale, un texte d'Alexandre Vigneault, paru le 27 mai 2023 dans la presse.
Un important groupe de défense des droits LGBTQ chinois annonce cesser son activité. Un texte de l'agence AFP paru le 17 mai 2023 dans le magazine Fugue. Le centre LGBT de Pékin, l'une des principales organisations de défense des droits de cette communauté en Chine, a annoncé le 15 mai cesser son activité. Le centre LGBT de Pékin, l'une des principales organisations de défense des droits de cette communauté en Chine, a annoncé lundi cesser son activité. L'organisation, fondée en 2008, se donnait pour mission de fournir à la communauté LGBT locale des services de santé mentale, des ressources médicales et un soutien social. Nous avons le regret de vous informer qu'en raison de circonstances imprévisibles, le Beijing LGBT Center cesse ses activités aujourd'hui, a déclaré le groupe de défense dans un communiqué. Le centre était également connu pour ses travaux de recherche et pour avoir développé des réseaux d'experts sur lesquels il s'appuyait pour faire connaître les libertés rencontrées par les personnes LGBT en Chine. Les autorités chinoises ont dépénalisé l'homosexualité en 1997, mais le mariage entre personnes du même sexe n'est pas reconnu et la stigmatisation sociale reste largement répandue. Après une période de détente dans les années 2000 et 2010, la communauté LGBT a été réprimée ces dernières années, les sociétés universitaires et les marches des fiertés ayant disparu les unes après les autres. Yinghua Qiang, journaliste indépendant et expert des questions homosexuelles en Chine, a déploré mardi la fermeture du LGBT Center de Pékin, évoquant une situation terriblement, terriblement triste. Le centre LGBT+ de Pékin joue un rôle essentiel dans la défense des homosexuels et le bien-être social en Chine. Il s'agissait en fait de la dernière grande organisation de longue date à subsister après les vagues de répression qui ont anéanti tout le reste, a écrit M. Kan. La marche des fiertés de Shanghai, qui était autrefois la plus grande célébration annuelle de la communauté LGBTQ dans le pays, a annoncé en 2020 qu'elle ne se tiendrait pas cette année-là et n'a plus eu lieu depuis. Les films et les émissions de télévision présentant des histoires d'amour entre personnes de même sexe ne sont pas autorisés en Chine et, au début de l'année dernière, l'application de rencontre Grindr a été retirée des plateformes de téléchargement. C'était un important groupe de défense des droits LGBTQ chinois annonce cesser son activité, un texte de l'agence AFP paru le 17 mai 2023 dans le magazine Fugue.
Les meilleures destinations pour amateurs de ciel étoilé au monde. Un texte de Jade Prévost-Manuel, paru le 23 septembre 2022 dans le magazine En route. Les images saisissantes prises par le télescope spatial James Webb vous inspirent? Observez les étoiles et prenez des photos grandioses dans ces hauts lieux de l'astrophotographie. L'été a été cosmique grâce au télescope spatial James Webb de la NASA. Le plus grand et le plus puissant télescope au monde nous a livré des clichés de nébuleuses scintillantes et de la plus ancienne galaxie connue de l'humanité, et il inaugure une nouvelle ère en astronomie, en favorisant l'avènement d'une foule de photographes passionnés par l'espace. Sidérés par les images intergalactiques que vous voyez sur votre fil Twitter, allez prendre vos propres clichés dans ces cinq destinations prisées par les photographes amateurs de la voûte étoilée. Désert d'Atacama, Chili. Pour les astronomes professionnels et amateurs du monde entier, le désert d'Atacama est l'Éden sur Terre. Son climat sec, sans pareil, sa haute altitude et son faible niveau de pollution lumineuse se combinent pour produire certains des ciels les plus clairs de la planète, et ce, plus de 300 jours par année. Sous le couvert de la nuit, le paysage quasi martien du désert chilien offre aux voyageurs un point d'observation spectaculaire où immortaliser le centre de la Voie lactée et les nuages de Magellan, des éléments rarement vus au nord de l'équateur, mais qui font partie intégrante du ciel du sud. C'est aussi l'un des meilleurs endroits pour voir des amas stellaires colorés comme Omega Centauri et la boîte à bijoux. Comme camp de base pour photographier la voûte australe et goûter le pisco local pendant que vous y êtes, choisissez le village oasis de haute altitude de San Pedro de Atacama, où la fertile vallée de l'Elqui, devenue en 2015 le premier sanctuaire international de ciel étoilé. Parc national Jasper, Canada. Avec ses plus de 11 000 kilomètres carrés, le parc national Jasper est la deuxième plus grande réserve de ciel étoilé au monde et la plus accessible. Depuis la ville-plateau de Jasper, dans les Rocheuses canadiennes, les sites d'observation les plus spectaculaires du parc, le lac Pyramide, le mont Edith Cavell et le lac Maligne, par exemple, ne sont qu'à une courte distance en voiture. Mais les adeptes de photos n'ont pas besoin de quitter la ville pour saisir les vues stellaires les plus spectaculaires. Le télescope du planétarium de Jasper est le moyen idéal d'apercevoir des galaxies et planètes éloignées. Demandez-le gentiment et le personnel du planétarium partagera ses secrets pour prendre des clichés de la Voie lactée. Prévoyez vous y rendre en octobre, à l'occasion du Jasper Dark Sky Festival, qui permet aux voyageurs d'apercevoir des aurores boréales, d'assister à des concerts symphoniques en plein air, éclairés aux étoiles, et de voir, en hélicoptère, les principales constellations. Pic du Midi, France. La nuit, les sommets glacés des montagnes entourant l'imposant Pic du Midi, dans les Pyrénées, constituent une toile parfaite pour les planètes, lunes et constellations visibles au-dessus du sud de la France. Le ciel étoilé nordique semble tellement proche qu'on penserait pouvoir le toucher depuis l'observatoire du Pic du Midi, poste de surveillance astronomique du 19e siècle, perché au sommet. Si le bâtiment se trouve à plus de 2877 mètres d'altitude, une nuitée dans ses installations est confortable grâce au côté douillet de ses chambres, de son restaurant et de sa terrasse. Installez-vous sur l'une des chaises longues pour prendre une superbe photo des amas des Pléiades et des Hyades, ainsi que de Bételgeuse, une étoile particulièrement brillante de la constellation d'Orion. Chaco Canyon, Nouveau-Mexique, États-Unis. La galaxie du Sombrero est à près de 30 millions d'années-lumière, mais pour voir cette structure cosmique spirale, il suffit de passer une nuit dans le Chaco Culture National Historical Park au Nouveau-Mexique. Ce canyon isolé, situé à l'extérieur d'Albuquerque, est l'un des meilleurs endroits où observer les étoiles et faire de l'astrophotographie aux États-Unis. Plus de 99 % de ce parc de ciel étoilé certifié est une zone d'obscurité naturelle dépourvue d'éclairage extérieur permanent, ce qui crée les conditions parfaites pour photographier des nébuleuses colorées, des amas stellaires et des galaxies lointaines. Planifiez votre visite en mai ou octobre, les périodes les plus sombres de l'année, où les fêtes des étoiles du Chaco Observatory, des rassemblements à minuit de photographes, d'astronomes et de passionnés, sont à ne pas manquer. Il est facile de trouver où dormir dans le Chaco Canyon, mais le sommeil est difficile à justifier tant il y a de choses à voir. Pour une dose de culture et d'histoire, passez une nuit blanche en vous promenant au clair de lune dans les ruines chacoennes des Indiens Pueblos, les premiers observateurs des étoiles dans le canyon. Uluru, Australie. Depuis Sydney et Brisbane, il faut compter 1h30 en avion pour atteindre le secret le mieux gardé d'Australie en matière d'observation des étoiles, Uluru. Les voyageurs le connaissent peut-être mieux pour ses vues diurnes, mais à la tombée de la nuit, cet Inselberg, qui se dresse à près de 350 mètres au-dessus de la plaine, dans le parc national australien d'Uluru, Kata Tjuta se fait tout petit face au ciel nocturne kaléidoscopique de l'arrière-pays. La situation géographique isolée de la région, la ville la plus proche est à 450 km, en fait un terrain de choix pour photographier les joyaux du ciel austral, comme la constellation de la Croix du Sud et l'amas stellaire des Pléiades. Le parc national d'Uluru, Kata Tjuta, est fermé aux visiteurs le soir, mais ses limites extérieures offrent un point de vue tout aussi spectaculaire pour ceux qui observent le ciel exceptionnellement clair du parc. Rester dans les parages après le coucher du soleil pour le « Sounds of Silence », un repas immersif au sommet d'une dune avec mousseux, canapé et vue exceptionnelle sur notre univers étincelant. C'était les meilleures destinations pour amateurs de ciel étoilé au monde. Un texte de Jade Prévost Manuel, paru le 23 septembre 2022 dans le magazine En route.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Lynn Lamarche, Gilbert Lepage et Claire Dorion à la lecture, Francine Thériault et André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.